Remède à la mélancolie sur France Inter avec Julia Kristeva. Francis Poulenc, les animaux modèles balaient en un acte d'après les fables de La Fontaine. On entend les deux coqs, un air guerrier et quelque peu anxiogène puisqu'il est question d'une bataille entre ces deux volatiles pour une poule, du ressentiment et du drame qui guette le vainqueur lorsqu'il est insolent. Julia Kristeva, vous avez choisi une citation d'un autre récit poétique de La Fontaine, Les amours de Psyché et de Cupidon, un texte qui date de 1669. J'aimerais bien que vous nous lisiez cet extrait et que vous nous racontiez une anecdote. Je crois que vous avez un souvenir singulier lié à ces vers quand vous étiez monitrice d'enfants français au bord de la mer Noire.
Mais écoutez, je suis ravie encore une fois de reprendre mes amours de la culture française, parce que j'ai toujours eu l'impression, peut-être l'ai-je dit désormais, que en France, la mélancolie est quelque chose dans lequel on se complaît pas, même s'il y a Pascal, il y a aussi Rousseau, Nerval, etc. Le soleil noir de la mélancolie,
c'est
Nerval, voilà. Mais ce sont des exceptions. Et pour ce qui est de La Fontaine, évidemment, c'est les fables, Corbeau, le renard, tout ce que vous connaissez, mais chez La Fontaine, on trouve une réflexion justement poétique, très condensée, que j'ai appris justement à ces jeunes qui venaient, parce que c'était le communisme qui avait aussi de bons côtés, l'internationalisme, la place des femmes, etc. Donc on pouvait accompagner le monde qui vient. Alors je le connais par cœur et je l'ai appris, nous l'avons appris avec Philippe Solers, c'est notre fils. J'aime le jeu. L'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien, jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique.
C'est une définition parfaite de l'amor fati prônée par les stoïciens ou Nietzsche.
Oui, mais c'est beaucoup plus joyeux, parce que sombre plaisir d'un cœur mélancolique, il le dit avec emphase et volupté, mais c'est le souverain bien, et ce qu'il veut c'est le souverain bien, le jeu, les livres, la musique, la ville, la campagne, c'est cet art de vivre à la française, cette gourmandise de la vie qui est pas en arrière-plan, mais avant. C'est ça qui capte dans le texte, beaucoup plus que la chute, qui évidemment, là, on sera mortels tous. Mais en attendant, aller vers le souverain bien, c'est ça l'incitation.
Et surtout, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de souverain bien, que tout est sujet à plaisir.
Voilà, il n'y a pas qu'un souverain bien. Cette pluralité, cette polyphonie des sens et ces langages multiples. Donc, La Fontaine lui-même est un exemple, parce qu'il n'écrit pas que des fables. Il y a plusieurs langages.
Non, c'est un très long poème, d'ailleurs, Les amours de Psyché de Cupidon. Julia Kristeva, nous avons abordé la psyché, nous n'avons pas encore parlé du corps, mais votre dernier onguent de l'âme y remédie. Vous avez choisi l'île de Ré, que vous qualifiez d'exilé et d'accessible, et vous aimez là-bas nager au lever et au coucher du soleil. Alors, est-ce que vous nagez seule, Julia Kristeva? Et surtout, avez-vous toujours ce sentiment ambivalent ressenti à 5 ans devant la mer? Est-ce que vous vous souvenez de ça?
Oui, je me souviens, oui, parce que j'entrais dans l'eau de la mer Noire et quand la mer se retirait, j'avais l'impression qu'elle allait m'emporter, mais il y avait papa qui me tenait la main et donc j'étais sécurisée. Mais maintenant, vous savez, j'ai tellement intériorisé le soutien paternel que je suis sûre si un homme ne m'aime pas qu'il se trompe. Donc, contre la mélancolie, il y a cette espèce d'intégration de l'amour paternel que le freudien appelle l'incorporation qui peut nous sauver contre toute forme de trahison. Et donc, à l'île de Ré, c'est drôle de prendre racine en France dans une île. C'est un ensouchement un peu paradoxal parce que je suis à la fois dans une terre qui est entourée d'eau, c'est une solitude, mais je suis accessible parce qu'en plus, maintenant, il y a le pont. Donc, c'est tout à fait moi.
Vous vouliez tout à l'heure rendre hommage à votre époux Philippe Solers, que j'ai appelé Monsieur Kristeva. J'espère qu'il ne me détestera point. Julia Kristeva, je vous en prie, il nous reste exactement 2 minutes à peu près et vous avez un texte que vous vouliez nous lire.
Mais je voulais lire un passage de Centre pour d'abord rendre hommage, évidemment, comme vous le dites, pourquoi pas, mais surtout parce que je vais plaider la cause de la psychanalyse, qui a du mal à se faire entendre, parce que nous sommes toujours un peu compliqués, les psychanalystes. Or, elle est au centre de ce livre. Et voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce qui s'est voulu à travers la psychanalyse? Avant tout, le démasquage de l'hystérie, c'est-à-dire de la nature humaine la plus profonde. On pourrait en tirer un roman génial, invendable. Voyage au bout de l'ennui. Le plus étonnant est que Nora, la psychanalyste qui me représente, dit-elle, ne s'ennuie jamais. Chaque cas l'intéresse. L'aveuglement humain la passionne. La bêtise elle-même la ravit. Bref, elle aime les gens et me reproche souvent de ne pas les aimer. C'est vrai, je vais trop vite. Je vois à travers eux la façon dont ils sont prisonniers de leur corps. Ils n'en sortiront pas, ni par l'art, ni par le sport. On dirait, sauf exception, qu'ils sont naufragés de naissance. Nora n'est pas d'accord. Selon elle, il y a toujours un espoir, un peu de vérité, peut-être.
Vous êtes, Julia Kristeva, plus optimiste que Philippe Solers.
Moi, je suis même pas optimiste, mais je suis une pessimiste énergique qui nage à travers la mélancolie.
Et c'est ça le secret, finalement?
Peut-être. Peut-être. Je crois, pour parler de l'île de Ré, on a pensé déjà à notre tombe et j'aimerais mettre une phrase de Colette, « Renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces ».
Que je citais dans l'introduction. Oui. Cette phrase, vous l'avez toujours ressentie, Julia Kristeva, ou parfois vous avez ressenti aussi le fait qu'il fallait s'y exercer?
Je pense que je n'ai jamais pu le formuler comme ça parce que c'est hyperbolique et un peu insolent. C'est Colette qui pouvait le faire. Elle parle extrêmement français, comme disent les personnages de Saint-Simon, Madame de Montespan, je crois. Mais c'est entré en résonance avec mon expérience, le communisme, l'exil, la difficulté de la maternité, difficulté d'être française sans être française. Toutes ces choses-là qui me mettent, je crois, à l'unisson avec les vibrations d'une modernité un peu en épreuve, en difficulté, en crise, eh bien, elle le formule comme ça. Et je crois que c'est pas tellement mien, ce résumé, c'est féminin. Les femmes sont amenées à dépasser les souffrances et la mortalité et à renaître.
Merci, on va finir sur ça, Julia Kristeva, c'est très beau. Merci beaucoup d'être venue dans cette émission.
Merci à vous.
Je renvoie les auditeurs vers votre foisonnante bibliographie et notamment pour des raisons purement subjectives vers votre essai « Soleil noir, dépression et mélancolie » où l'on croise Marguerite Duras, Gérard de Nerval et Dostoïevski que je salue au passage et sur lequel vous travaillez, je crois, en ce moment. Je rappelle le titre de votre dernier roman, c'est « L'horloge enchantée » paru chez Fayard et votre livre d'entretien autobiographique chez le même éditeur « Je me voyage, mémoire, entretien » avec Samuel Doc.